Bien, alors écoutez, ce que nous avons étudié cette année, et comme nous avons peu de temps, d'abord parce que le cours commence en retard dans l'année et que malheureusement je suis obligé de voyager souvent, donc vous aurez des trous pendant l'année, alors entre-temps je vous donnerai des textes à préparer, essayez de les préparer attentivement, qu'on n'ait pas à perdre du temps pendant on se croise pas les jambes, hein, quand on étudie la Torah. Et préparer les cours, les textes que je vous donne à voir, ceux qui savent l'hébreu, bien sûr, en hébreu, sinon même en français, qu'on n'ait pas à perdre de temps pour des questions d'érudition élémentaire. Vous arrivez à m'entendre ? Oui, tout le monde. Alors, je compte sur vous, parce que vous êtes nombreux, et il ne faudrait pas qu'on perde trop de temps pour des questions de vocabulaire. Alors, étant donné que nous avons étudié en français des sujets qui concerne... Non, tu me les donnes ici. Oda. Nous allons étudier en français des sujets qu'on ne peut comprendre qu'en hébreu. Par conséquent, la principale difficulté, c'est une difficulté de vocabulaire. Alors, ce que je vous demande instamment, parce que vraiment on a très peu de temps à étudier, c'est de ne jamais changer les termes de ce que vous avez appris si vous avez une question qui se pose à vous. Faites l'effort de retenir les choses comme elles ont été dites. D'ailleurs, ça ne va pas seulement pour les cours que vous avez avec moi, mais pour tous vos professeurs. Tant que vous étudierez en français, méfiez-vous de cela, parce qu'énormément de temps est perdu à cause de fausses questions si vous avez changé un mot dans ce que vous avez entendu. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Parce que le français et l'hébreu sont deux langues très différentes. Alors, à plus forte raison, quand vous étudierez en hébreu, vous habituerez au fait que on cite toujours exactement ce qu'a décrit ou ce qu'on a entendu. Dès que vous changez quoi que ce soit, une virgule, une voyelle, ça veut dire autre chose. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Alors vous apercevrez d'ailleurs à l'usage qu'énormément de faux problèmes, de fausses questions qui ont dû vous encombrer l'esprit jusqu'à présent viennent de ces questions de vocabulaire. Je sais qu'il y a une tendance, surtout à votre âge, enfin vous êtes de différents âges, mais je parle des adolescents, à se croire, je ne sais plus parler très bien français, mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre l'idée, on se fait un point d'honneur à avoir un style personnel. Ça, vous avez le temps. Quand vous aurez appris, vous aurez compris, vous aurez votre style personnel. Mais très souvent, on se croit vexé, je ne sais pas comment dire en français, pas injurié, c'est trop, si on n'a pas mis une petite touche de coquetterie personnelle. Ça fait perdre du temps, et ça trompe personne, et ça n'a aucune importance. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là, okay? Alors retenez bien cela, faites l'effort de mémoire précise, ce que vous avez appris, citez-le comme vous l'avez appris. Chaque fois qu'il y aura une question décalée, on évacuera ça, parce que ça risquerait de faire perdre du temps. Est-ce que c'est clair? Maintenant, d'autre part, si vous avez lu quelque chose, ou si vous avez entendu quelque chose à part, et qui vous pose problème dans l'étude, non seulement vous avez le droit, mais vous avez le devoir de m'interroger, mais à condition de dire exactement qui a écrit ou qui a dit quoi, parce qu'on ne peut pas interférer les discours et les vocabulaires. Est-ce que c'est clair, hein? Alors, voyez donc, vous avez surtout à faire travailler votre mémoire. Maintenant, je sais que certains d'entre vous auront l'habitude de prendre des notes. En principe, je préfère que pas. Vous avez dû remarquer que la Torah, ça s'étudie balpé. Mais si vous avez besoin de vous aider de notes, rédiger des notes de telle sorte que ça soit compréhensible, même pour quelqu'un qui n'a pas étudié le cours. Parce que vous apercevrez que vous-même, quand vous reprendrez ces notes, elles vous seront incompréhensibles dans 15 jours ou dans un mois. Alors, le conseil que je vous donnerai, c'est d'avoir un cahier avec deux pages ouvertes. Sur une page, vous suivez le déroulement du cours à proprement parler, chaque fois qu'il y aura un thème. Et sur l'autre page, toutes les connaissances annexes, des parenthèses, des références, des associations d'idées que vous entendrez, que vous pourriez avoir. Ne mélangez pas ça dans le cours, dans le courant du texte. Est-ce que c'est clair? Non. Voilà, ceci dit, je ne sais pas quel est votre récard, vos connaissances préalables. Je vais supposer que vous n'avez rien appris, en tout cas du point de vue de la manière de le formuler. Ça économisera aussi du temps pour ceux qui n'osent pas interroger quand ils n'ont pas compris quelque chose. Et alors, qui a déjà suivi ce cours les années précédentes? J'en vois que des visages qui me sont familiers. Oui, levez la main, oui. Alors, vous n'avez pas la parole, hein. Le cours est fait pour les nouveaux. si à la fin du cours, il y a quelque chose de particulier qui vous turlupine, ne demandez que sur un sujet que les autres sont censés comprendre. Sinon, d'abord, c'est pas poli, et puis on perd du temps. C'est clair ce que je dis. Bien. Alors voilà, le sujet général du cours, c'est d'essayer d'assister, à travers la lecture du livre de Bréchit, à la manière dont la Torah nous raconte l'apparition de l'identité Israël du dedans de l'histoire humaine. Vous avez dû remarquer déjà, ceux qui sont plus ou moins familiers avec ce récit, que la Torah commence par nous raconter la création de l'homme en général. Il y a un résumé historique des différentes générations de l'humanité avant le temps des patriarches hébreux où commence à réexister l'identité hébraïque et qui va mener à l'identité Israël. Alors ce sont des récits pour lesquels il faut énormément de temps pour découvrir l'essentiel. Je ne parle même pas des détails, tous les détails sont importants. On va être obligé cette année de découvrir le sujet, de le schématiser beaucoup. Donc ne croyez pas que chaque fois qu'on a appris un texte ou un verset, on a appris vraiment ce qu'il y a dedans. On a appris à peine à lire un peu de ce que ça nous enseigne, dans tous les cas. Et voilà donc l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre l'identité Israël, telle que la Torah en parle. Et en particulier, je m'y référerai assez rapidement, de telle sorte de comprendre les problèmes de la société juive contemporaine, tant en diaspora qu'en Israël, parce que nous nous trouvons à un moment d'histoire où nous retrouvons une des péripéties dont la Torah parle de manière très claire et très précise, les périodes de fin d'exil. Vous découvrirez que l'histoire d'Israël a des côtés particuliers qu'on ne retrouve dans aucune histoire humaine, en particulier ce fait de l'histoire d'un long exil entrecoupé de quelques temps d'identité nationale, et pendant 3600, 700 ans, près de 4000 ans, c'est un temps très long. On pourrait le lire aussi d'une autre manière, une histoire nationale entrecoupée de très longtemps d'exil, ça pose un problème en soi. D'abord découvrir que ce n'est pas habituel aux sociétés humaines d'avoir une telle histoire, c'est un cas particulier, et pourquoi, ça aussi nous commencerons à étudier, mais il y a des périodes caractéristiques de fin d'exil et de regroupement sur la terre d'Israël, où ce peuple que j'appelle Israël dans le sens le plus général pour commencer, à travers le temps et l'espace, retrouve son identité hébraïque. Et alors il y a un certain nombre de problèmes qui assaillent la société Israël dans ces périodes caractéristiques de fin d'exil et de recommencement de l'histoire nationale. L'État d'Israël contemporain a à peine même pas une cinquantaine d'années, c'est une seconde par rapport aux milliers d'années de notre histoire. Donc nous sommes en train de vivre dans le temps contemporain une mutation d'identité radicale dont peu de Juifs ont idée et qui secoue d'ailleurs le monde entier. Je ne sais pas si vous suivez un peu la politique mondiale autour d'Israël. Et vous êtes nés, la plupart d'entre vous, après la guerre et donc après la Shoah. Vous ne pouvez pas vous rappeler expérimentalement de ce que c'était que l'identité juive avant la Shoah et avant la guerre, pendant la Shoah et pendant la guerre. Mais vous devez avoir déjà perçu cela, que quelque chose a changé entre l'intitulé juif et l'intitulé israélien. Quelque chose a changé. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, comment la Torah parle de cela. Je dis bien la Torah, et c'est ce que nous allons étudier dans le texte. Parce que dans la société juive contemporaine, et en particulier en Israël, il y a énormément de tendances politiques, idéologiques, même dans les milieux religieux qui sont très différenciés, où on cherche ailleurs que dans la Torah des principes d'idéologie et on les projette sur la Torah en disant « c'est la Torah qui dit ça ». Ça, vous aurez des exemples, vous pratiquerez ce problème. Il faut savoir qu'il y a une première question que nous avons étudié en préface, la Torah a enseigné le sens de l'histoire d'Israël. Et par conséquent, lorsque des événements aussi importants que par exemple la Shoah ou que la réapparition d'un État hébreu après 2000 ans d'exil apparaissent, ce sont des événements massifs. L'idée que la Torah n'ait pas d'explication pour cela, c'est simplement l'indice que toute une partie de la Torah n'a pas été étudiée pendant les derniers siècles. On a mis l'accent sur ce qu'il fallait étudier pour savoir comment pratiquer la vie juive. Et on a abandonné ce que la Torah dit de la foi d'Israël, de la connaissance de l'histoire d'Israël. C'était réservé à des initiés, je ne veux pas employer de termes d'identification sociologique, mais C'était vraiment de très rares savants, sages, qui s'occupaient de cela. En particulier, un des grands maîtres, grâce à qui nous avons des livres qui peuvent être une référence objective pour la communauté, parce que les traditions orales passent là où elles passent. Mais lorsqu'il y a des livres, ça peut être une référence pour l'ensemble des manières d'être juif. Et en particulier, Judas Lévi, que je vous citerai souvent, qu'on vous citera souvent d'ailleurs dans vos autres cours, je suppose, et toute une lignée qui commence à Judas Lévi et qui arrive au Rav Kook, et où on s'est préoccupé du sens de l'histoire d'Israël, ce qui est très peu étudié dans la majorité des yeshivot. Et alors, ce qui fait que lorsque ces grands événements massifs de ces mutations d'identité que nous sommes en train de vivre dans les différentes générations où nous sommes sont arrivés, ça a surpris le peuple juif et la plupart de ses élites de manière désemparée. Ils n'ont pas su comment réagir et on se prend au piège d'idéologies religieuses, pas religieuses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que la Torah dit de la signification des événements. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit jusque-là, hein? Alors méfiez-vous quand on dit « la Torah a dit que ». Chaque fois que vous entendez « la Torah a dit que » ou « la tradition a dit que », demandez où c'est écrit et comment c'est écrit. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Si vous avez ces formules « la tradition dit que », ça ne veut rien dire, hein? On peut dire n'importe quoi de n'importe quoi. Il suffit d'avoir une barbe et une kippa et on fait comme si c'est la Torah qui a parlé. Non, c'est monsieur Intel qui a parlé. C'est clair ce que j'ai dit, hein? Il y a d'ailleurs un problème en incidence. On s'est demandé pourquoi il a fallu mettre la Torah par écrit. C'est pas naturel que la Torah soit mise par écrit. Il y a un commandement où Dieu demande à Moïse de mettre la Torah par écrit. Donc c'est que ça ne va pas de soi. Eh bien, il y a des raisons historiques pour lesquelles il fallait mettre la Torah par écrit, pour lesquelles il a fallu mettre la Mishnah et ensuite la Gemara. Et la plupart de nos sources, je dis la plupart parce que certaines sources sont restées orales, c'est deux raisons historiques. D'abord, la dispersion qui a fait que on se trouvait aux antipodes. Les maîtres étaient en Australie et les élèves étaient au Groenland. Et puis, à travers des siècles et des siècles, c'était une cause de dispersion de la connaissance. Et si elle était restée orale, elle aurait risqué de se perdre. Alors, on a décidé de la mettre par écrit pour pas qu'elle s'oublie à cause de la dispersion. Donc, ça, c'est un événement qui s'est produit il y a 2000 ans. Pour la Torah Sheba'al Peh. Et puis le fait qu'il y a eu énormément d'époques de persécution contre ceux qui étudiaient la Torah. Par exemple, au temps de l'occupation romaine en Judée, si on attrapait un rabbin et deux juifs, on les mettait les trois à mort, parce que ça voulait dire que c'était un bêta midrash. Qu'un rabbin enseigne à deux juifs, et c'était interdit d'enseigner la Torah. Et donc, pour empêcher que cette mémoire ne disparaisse, on l'a mis par écrit. Mais on l'a mis par écrit intentionnellement, sous une forme telle que seuls qui ont la tradition, ceux qui ont la tradition orale peuvent comprendre. Vous allez remarquer maintenant que vous étudiez ici en hébreu à Jérusalem qu'on ne peut pas comprendre des traductions et que l'étude, ça ne consiste pas à traduire. L'étude, une fois qu'on a traduit, qu'on comprend ce que le texte veut dire, c'est là que l'étude commence. Je vous donnerai d'ailleurs à chaque cours des exemples. Ne croyez pas que la Torah, ça s'étudie avec un livre, un dictionnaire et moi, mon intelligence. Ça, c'est l'université, ça, c'est les études bibliques à l'université. La Torah, ça s'étudie avec une tradition de sens qui remonte aux origines. Si ce n'est pas celui qui a écrit le livre qui me dit qu'est-ce que ça veut dire, je n'ai qu'une hypothèse de lecture, moi, le lecteur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis là. Okay, ce n'est pas un livre qui s'étudie avec des dictionnaires. La preuve, je vais vous donner un exemple de cela pour que vous réfléchissiez à tout ça, à l'importance de tout cela. Et je rattache à ce que je disais précédemment, ça vous fera comprendre pourquoi il y a des tas de gens qui sont persuadés que ce qu'ils disent au nom de la Torah c'est vrai, alors que c'est vrai ce qu'ils disent, alors qu'ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui disent ce qu'ils disent au nom de la Torah et qu'il faut vérifier qu'est-ce que la Torah a dit. Est-ce que c'est... J'espère que je ne vais pas donner trop de cauchemars déjà. Hein? Donc, vous savez, un petit peu de cauchemar ça aide à vivre, hein? Surtout quand on est juif. Alors, en tout cas, il n'y a qu'à lire les journaux, vous aurez votre provision de cauchemar. En tout cas, pour revenir au sujet, j'ai un exemple. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ce qui se passe dans le monde chrétien, qui est un monde immense, qui a duré 2000 ans déjà, et qui prétend lire la Bible. Avec l'islam, nous avons un autre problème, parce que ce n'est pas le même livre, le Coran et la Bible. Mais en tout cas, avec les chrétiens, c'est la Bible qui prétend lire. Alors remarquez ce qui se passe dans le monde chrétien. Vous avez trois grands ensembles, les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Les orthodoxes chrétiens sont les églises slaves grecques. Vous êtes familier un petit peu à ça, dans votre culture européenne. Vous arrivez d'Europe, je suppose. Okay. Donc. Et alors, vous en êtes sorti, j'espère. Et alors, il y a trois grands ensembles qui ont finalement trois types d'églises, trois types de lecture de la Bible et trois théologies. Alors, indépendamment des différences proprement théologiques entre catholiques, protestants et orthodoxes, il y a une observation qu'on ne peut pas ne pas faire. C'est que, grosso modo, les latins sont catholiques, les anglo-saxons, les scandinaves sont protestants, et c'est plein de sous-églises dans chaque ensemble, okay, et les slaves et les grecs sont orthodoxes. Alors ça veut dire que, indépendamment et a priori des différences théologiques à proprement parler, proprement religieuses, il y a une différence culturelle. Ça veut dire, ça dépend qui lit ce livre. Si c'est un latin, grosso modo, il en sort le catholicisme. Si c'est un anglo-saxon, il en sort le protestantisme. Et si c'est un slave, il en sort l'orthodoxie. Ça vous a jamais frappé, ça? Bien sûr, il y a des cas particuliers à l'échelle individuelle. Par exemple, je connais des Espagnols protestants. Mais on sent que ce n'est pas normal. Un Espagnol normal, si ça existe, il est catholique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et pourtant, il y a à l'échelle individuelle tous les paradoxes possibles. Vous avez aussi des slaves catholiques. Ça existe. Et vous avez aussi des anglo-saxons catholiques. Toute la guerre qu'il y a entre l'Irlande et l'Angleterre, c'est une guerre entre catholiques et protestants anglo-saxons. Mais en schématisant, on s'aperçoit que finalement, ça dépend du lecteur. C'est-à-dire, c'est un livre qui ne dit que ce que le lecteur lit. Est-ce que c'est clair? Alors, il faut se méfier. Okay. Et si nous, juifs, nous lisons la Bible en hébreu, dans l'hébreu, des hébreux qui ont reçu la révélation des prophètes, alors c'est peut-être la Bible. Alors vous voyez que c'est pas simple. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est-à-dire, méfiez-vous de ce piège. Okay. J'ai l'habitude de dire, et les anciens s'en souviennent, que la définition d'un maître, c'est pas quelqu'un qui a des élèves. Ça, c'est un professeur. La définition d'un maître, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui a eu un maître. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Et donc, le maître lui-même n'est maître que s'il a eu un maître. Vous voyez où ça plonge? Alors, grâce à Dieu, il y a une alliance avec la Torah, que cette chaîne de la tradition ne s'est jamais interrompue. Le mystère, c'est qu'on ne sait plus par où ça passe. Et alors vous avez différentes chitotes, comme on dit, différentes... Comment on traduit les chita en français? Hein? J'entends pas, vous avez... Hein? Version. Courant, c'est mieux. Donc, d'après ce que je veux dire, je ne veux pas dire des sectes, je ne veux pas dire des tendances, c'est plus court. C'est plus nuancé que ça. Des chitos, des approches de la Torah radicalement différentes. Un mitnaget, ce n'est pas un chassid, et d'ailleurs, les chassidim, il y a énormément de chitos. Un sfarad, ce n'est pas un ashkenaz. Un yéménite, ce n'est pas un polonais. Et tout ça, ce sont des traditions qui se sont transmises. Et alors, le grand problème dans notre génération, c'est que beaucoup de juifs sont assimilés et que lorsqu'ils reviennent au judaïsme, la règle serait qu'ils doivent revenir à la tradition de leur famille. Mais on ne rencontre pas forcément un maître de la tradition de sa famille. Alors il y a une espèce de chaos d'identité juive en chaos. Vous avez quand même un descendant de juifs roumains est converti à... Enfin, converti, le mot est un peu exagéré, mais on parle français. À la manière marocaine d'être juif, il y a un problème. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. L'âme roumaine et le paysage marocain, ça ne va pas ensemble. Et l'inverse non plus. L'âme marocaine et le paysage hongrois, enfin, c'est ce qu'on croit. Mais vous voyez la pagaille dans laquelle on se trouve. En général, la règle, c'est qu'il faut revenir au noussar, au rite de ses pères. Ce sont des traditions de centaines, milliers d'années. Et on ne violente pas un psychisme traditionnel. Il se venge. Finalement, vous voyez, la plupart de ces gens qui changent de chapelle, si j'ose dire, finalement, ils sont déguisés dans la chapelle d'adoption. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et ça se sent tout de suite. On voit si on a affaire à un juif déguisé ou à un juif d'origine. Ils sont tous originaux, d'ailleurs. Mais il s'agit des juifs originels. Bon, alors nous sommes une génération catastrophique, une génération de fin de série. C'est un rassemblement de rescapés. Il ne faut pas s'impressionner, c'est la réalité à laquelle il faut se mesurer. Mais ceci pour dire que pour notre problème d'étude, il faut se méfier de ne pas prendre ses propres hypothèses de lecture pour ce que la Torah dit. Vous allez tout de suite, dès que vous commencez à étudier avec des rabbins qui ont une tradition, vous apercevez que ce texte ne signifie rien si quelqu'un ne vous dit pas « traduit, voilà comment ça se traduit ». Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule shita de vrai et que toutes les autres sont fausses. Ça veut dire dans chaque shita, vous avez compris maintenant que c'est une shita, okay? Dans chaque shita, il y a les uns et les autres. Vous avez compris ce que je veux dire, okay? Et de la même manière, quand je rentre dans une synagogue d'un autre rite que le mien, eh bien, je peux m'apercevoir assez rapidement si le chazan connaît son rite ou pas. Il suffit de suivre les psaumes. Si au bout de 3 ou 4 psaumes, j'ai mal au rein, c'est qu'il ne sait pas chanter. Parce que le rythme est décalé, quel que soit le rythme. Je ne sais pas si c'est clair ce que vous dites. Alors vous avez des gens qui vous diront, ah, c'est une autre tradition. Ce n'est pas une autre tradition, c'est une faute. C'est tout. Alors, qui peut savoir où c'est une faute et où c'est une tradition? C'est ça le problème des maîtres. Vous avez compris la grande différence, okay? C'est clair? Donc. Et à part ça, il y a des centimètres, c'est-à-dire des gens qui se sont sentis maîtres. Cela, méfiez-vous, okay? Parce qu'il y a aussi des décamètres. Alors, vous savez qu'il y a une espèce de mode imité du Vatican. On n'a que des gaonim. Vous allez dans la rue, vous voyez des affiches. Un cours de Arabe, Agaon, Arachi, Ababa, des géants. D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? Un 8e de patrouille. Okay. Tellement on lui a mis des titres. Vous avez compris ce que je veux dire? Méfiez-vous de ça. S'il y a un Gaon par génération, c'est beaucoup. Alors nous sommes dans une génération où le Gaonim, ça pullule. Okay. C'est suspect. Vous avez compris ce que je veux dire? Méfiez-vous des bondieuseries exagérées. Okay. C'est toujours suspect ce qui est exagéré. En tout cas, je reviens au sujet. Je vois que vous êtes en plein cauchemar. Je vais vous donner un exemple pour résumer, conclure sur tout cela. Il faut être très vigilant et citer exactement, si citer un commentateur, ne vous trompez pas. Si c'est Rashi qui a dit cela, c'est Rashi qui a dit cela. Et il faut du temps jusqu'à ce que vous compreniez quelle compréhension du verset Rashi avait pour dire ce qu'il a dit. Mélangez pas les perspectives. Hein. Alors, si c'est Rashi, c'est pas Nachmanide. Si c'est Nachmanide, c'est pas Maïmonide. C'est un autre discours. On mélange pas. Vous voyez l'effort de mémoire que vous aurez à faire pour avoir l'esprit tranquille. Hein. Et puis, sachez qu'il faut du temps. Lorsque la Torah a dit tu étudieras le jour et la nuit, toute ta vie, il faut du temps pour arriver à maîtriser cette connaissance. Mais dès qu'on est suffisamment familier avec le texte, alors on change de monde complètement. On est rentré dans le monde des prophètes, de quoi ils parlaient lorsqu'ils révélaient la Torah et la Bible en général à Israël. Et Israël, ça veut dire les Hébreux du temps de la prophétie, il y a très longtemps. Alors vous voyez la chaîne traditionnelle, culturelle, que l'on doit suivre pour arriver à notre temps culturel contemporain. C'est donc pas simple. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, ce que je vous conseillerais, c'est de laisser provisoirement de côté la tentation d'avoir une synthèse personnelle des connaissances de la Torah, ça, vous êtes jeune, vous avez le temps, et d'apprendre par cœur le plus possible. Même des choses que vous ne comprenez pas encore, ça viendra. Si vous n'avez pas en tête un stock de mémoire de textes traditionnels, ça tourne à vide. Vous savez, j'avais un maître, mais c'était Edmond Fleg. Vous avez entendu parler d'Edmond Fleg, un grand poète français, juif français. Il avait un très beau vers. Et il comparait l'esprit à un moulin. Vous savez, le moulin qui moule le blé. Alors il dit que le moulin, pour moudre le blé, il faut qu'on lui donne du blé. S'il n'y a pas dans la mémoire le blé de la connaissance, alors ça broie du noir. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? C'est un moulin vide qui tourne, c'est affreux. Alors c'est ça l'esprit vide. Je connais des gens qui, la veille, ont appris Aleph Bet, et le lendemain, enseignent Bet Aleph. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein? Ça s'appelle cours de judaïsme. Alors, méfiez-vous de ça. Hein? Il faut intégrer et apprendre par cœur de façon exacte et précise. Alors vous avez du travail pour vos nuits solitaires. Bien, alors on va prendre un exemple, le premier verset. Je vous enverrai d'ailleurs un texte à préparer pour la prochaine fois. Je vous le distribuerai à la Hafsaka en vous montrant sur quoi je vous demanderai de réfléchir. Prenez le premier verset de la Réchite. Nous avons là un chapitre qui est une préface le premier verset du livre de Brut. C'est un chapitre qui est une préface au récit de l'histoire que le livre de Brigitte nous donne jusqu'au moment où la famille de Jacob, qui va devenir le noyau de la nation d'Israël, après toute une série de péripéties de sélection d'identité depuis le temps d'Abraham, va descendre dans l'exil d'Égypte. Ça sera le livre de l'Exode. Okay, et le livre de l'Exode, le livre de Shemot, nous raconte toutes les péripéties de la sortie d'Égypte et de la révélation de la Torah. Après, nous verrons les autres livres. Et c'est ce premier chapitre, qu'on appelle en hébreu Maase Bereshit, l'œuvre du commencement. Au fait, qui ne connaît pas du tout l'hébreu, qui ne connaît pas du tout l'hébreu, levez la main que je veux sache. Même pas écrit, même pas les lettres.
Non, je commence.
Oui. Et les autres, vous parlez hébreu? Qui parle hébreu? Bon, ça, les anciens, je suppose, mais. Qui était dans une école juive en France? Vous arrivez de France tous, ou aussi du Canada ou du... Qui n'est pas de France, d'abord, que je vous connaisse un peu? Tu es d'où, toi? Du Canada, Montréal. Toi. Et tu as fait une école juive là-bas? Non. Alors, qui a fait une école juive en France? Dites-moi lesquelles, je vois le genre. Quelle école? Parlez plus fort, je... hein? Alors, tout à Lyon, à Paris? Ah oui. Ken? Et les autres? Nous? Yavne. Je sais. Et qui d'autre?
Laure Toulouse.
Qui était ton directeur? Et vous? Quelle école? C'est l'Orte en majorité. Hein? Non? J'écoute, écoute. Les autres?
Akiba,
à l'école Akiba? Donc, c'est toi? Non? Yavne. Bon, vous êtes très peu à avoir fait. Et toi? La meilleure. Yavne. Bon, alors je vois, vous êtes très peu à avoir suivi une scolarité dans une école juive. Donc je vais surtout parler pour ceux qui ne savent rien. Les autres, ça vous fera faire des révisions si je fais allusion à des choses que vous connaissez déjà. Bon. Alors, ce premier chapitre s'appelle le Maase Bereshit. Ça veut dire en hébreu l'œuvre du commencement. Maase Bereshit. En français, on a l'habitude de l'appeler le récit de la création. Mais retenez l'expression en hébreu, vous verrez la différence. Par exemple, vous avez l'expression française « les six jours de la création ». C'est une expression fausse. Nous n'avons pas en hébreu une expression pareille. Parce que la création ne dure pas six jours, elle dure l'instant du commencement. Et c'est une expression française qui vient des chrétiens. L'expression hébraïque, c'est « Shechet yeme ha-maase », les six jours de l'œuvre du commencement, du Maase de Bereshit. Alors, j'explique d'abord ce que je viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire « créer » dans l'hébreu biblique? Ça veut dire « il n'y avait rien, il y a ». C'est ça le « créer », « baro », « faire apparaître à l'existence ». Ça, ça ne dure pas six jours, ça dure l'instant du commencement. Est-ce que c'est clair? Alors vous voyez, quand on véhicule les expressions en français qui sont complètement fausses, est-ce que, alors vous verrez, j'anticipe une implication vraiment erronée, de dire Dieu a créé le monde en six jours, et le septième il s'est reposé. Alors ça voudrait dire qu'il s'était fatigué, ça voudrait dire qu'il s'est fatigué pendant six jours, et le septième il se repose. Regardez, c'est un vocabulaire infantile. D'abord, ça n'existe pas en hébreu, toutes ces choses, toutes ces stupidités-là. Okay? Et vous voyez, le monde de faux problèmes, qu'est-ce que c'est ça, un Dieu qui se fatigue? De quoi il s'agit, okay? C'est clair, ce livre-là? Alors, toute la conception du Shabbat, quand vous commencerez à l'étudier, va complètement changer. On appelle ça le jour du repos. Entre autres, c'est le jour où on se repose, si on a le temps. Entre autres, il y a 49 qui sont 50 conduites du Shabbat, de travail interdit. Et il y a un 51e commandement, en plus, il faut se reposer. Ça n'a rien à voir. Vous n'arriverez pas à comprendre les lois du Shabbat si vous avez ces erreurs-là, qu'il s'agit d'une technique du repos. Qui a parlé de ça? En plus, le Shabbat, il faut se reposer. Vous remarquerez que le Shabbat, c'est un devoir de se reposer. Le repos du Shabbat a une qualité différente. Parce que le repos dans les jours de la semaine, qui sont les jours du travail, on a toujours un remords. Peut-être je n'ai pas suffisamment accompli ma tâche. Tandis que si je me repose le Shabbat, j'ai le droit. Et là, je dors tranquille. Vous voyez la différence ? Hein ? C'est pourquoi on dit en hébreu, Shabbat, vous voyez les trois lettres, Shin, Bet, Tav, Shena, Beshabbat, Ta'anou. C'est-à-dire le sommeil du Shabbat, c'est une volupté. Et les autres jours, on n'a pas le droit. Non, on ne peut pas dormir tranquille. Vous savez, le sommeil du juste, ça n'existe pas en hébreu. Hein ? Quelqu'un qui peut dormir tranquille, alors que le monde est ce qu'il est, c'est sûrement un rachat. Et les Français appellent, les chrétiens appellent ça le sommeil du juste. Vous verrez d'ailleurs que là, dans le récit de la Torah, quand vous apprendrez tout ce qu'il faut apprendre, les justes ne dorment pas. Voilà que le roi David n'a jamais dormi. Et quand vous lisez ça dans le Talmud, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ça, un homme qui ne dort pas, hein ? C'est un tzaddik. Un tzaddik ne peut pas dormir tant que le monde est ce qu'il est. Sauf les petits moments où on a le droit de dormir, le Shabbat après-midi, après Mincha. On est Shabbat. Ne croyez pas que je blague. Hein ? C'est des choses précises que je vous dis. Ou bien vous verrez dans l'histoire de Moïse que Moïse s'est endormi, alors Dieu a essayé de le punir. Il s'est endormi parce qu'il a appris que ses ennemis avaient disparu. Alors il s'est endormi. Il ne s'est pas occupé de son peuple. Alors Dieu s'est jeté sur lui, dit le récit. Mais ce sont des récits qui seraient incompréhensibles si on ne les prend pas au sérieux d'après des catégories proprement hébraïques. Vous voyez ? Je vais donner un exemple en passant. Le sommeil du juste. Pour la Torah, ça ne va pas ensemble. Un juste ne peut pas dormir tranquillement tant que le monde est ce qu'il est. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Par exemple, vous avez dans la Gemara, l'enseignement suivant, quelqu'un qui est une semaine sans rêver est appelé Rachar. Alors faites attention, il y a...